Alors le texte que nous allons commenter se trouve dans la première épître de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. En voici la lecture. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons. Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Alors, pour avoir une meilleure compréhension de ce texte, je vous propose un commentaire en plusieurs étapes, où chacune des étapes va être finalement une interprétation différente, parce que souvenons-nous que la parole de Dieu recèle beaucoup de trésors et qu'on n'est pas prêt de l'épuiser. Alors, j'ai toujours recours à des interprétations dites classiques. Alors, d'abord, ici, le texte pris dans son sens littéral a une signification anagogique, c'est-à-dire centrée sur le ciel et les fins dernières. Nous allons commencer par cette interprétation. Mais comme vous allez voir, toutes les interprétations se rejoignent plus ou moins. Il ne s'agit pas toujours de segmenter. Alors, mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Alors, la vision anagogique montre toujours la vie en ce monde par rapport à la vie dans l'au-delà, et ici je crois que ce texte s'y prête très bien. Beaucoup de gens, donc, ont peur de la mort et de ce qu'il y a après, mais nous chrétiens, nous devons être comme saint Paul qui dit attendre sa mort avec impatience. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le Père nous aime. D'abord, Dieu n'est pas un Dieu lointain et impersonnel, comme dans d'autres religions, mais il est Père. Ça, c'est vraiment la grande révélation de Jésus-Christ. Faire de Dieu un Père, mais un Père, non pas le Père du peuple simplement, mais notre Père, ton Père à toi, mon Père à moi. Et cela va très loin, parce que si Dieu est notre Père à titre collectif et personnel, alors Dieu est là pour nous aimer, pour nous combler de son amour, à l'image de la Trinité, où le Père se donne pleinement, se communique pleinement dans sa nature même de Dieu à son Fils, pleinement Dieu à l'égal du Père, qui reçoit tout de son Père, l'Esprit Saint, donc la nature divine, l'amour qui est engendré pleinement du Père. Eh bien, nous sommes appelés par Jésus-Christ à vivre cette relation, c'est-à-dire à recevoir du Père sa grâce, son amour, sa protection, sa providence, sa sagesse. Ça va jusque-là, accepter que Dieu soit notre Père. Il faut vraiment s'abandonner à notre Dieu. Et il faut pour cela aussi accepter d'être enfant de Dieu, c'est-à-dire accepter cette relation de dépendance à Dieu, c'est-à-dire d'abord se tourner vers lui pour dans des problèmes, dans les décisions à prendre, penser à lui comme un enfant vis-à-vis de son Père, être obéissant à son Père, lui faisant confiance pour notre propre bonheur et celui de nos frères. C'est ça vraiment. Et au paradis et au ciel, c'est une relation pleine et entière à l'image de Jésus qui est le Fils aimé du Père. Eh bien, nous serons aimés dans le Fils, dans Jésus, comme vraiment le Fils à titre personnel du Père. Nous avons une relation intime et personnelle avec Dieu. Quelle merveille! Mais le texte rajoute, et nous le sommes, c'est dès cette vie que nous pouvons expérimenter l'amour paternel de Dieu. Comme je l'ai dit, quand nous avons des difficultés, etc., malgré les obstacles inhérents à cette vie ici-bas, parce que la vie ici-bas n'est pas le ciel, il y a des obstacles, eh bien, malgré tous ces obstacles, l'amour de Dieu aura le dernier mot dans nos vies et celle de nos frères. Il faut en avoir la conviction parce que c'est vrai, le Christ est mort pour nous le dire et pour que nous en vivions de cette réalité. Donc être enfant de Dieu, c'est reconnaître pleinement Dieu pour Père, donc la mort ne doit pas nous effrayer, et au contraire, nous serons heureux de voir notre Père vraiment sans voile. Et c'est aussi accepter de vivre en enfant de Dieu dès ce monde, c'est-à-dire avec un abandon filial au Père, et avec une reconnaissance et un amour pour le Père fait de gratitude à l'image du Fils de Jésus qui aime son Père de la sorte. Alors continuons, voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître puisqu'il n'a pas découvert Dieu. C'est ce que je viens de dire. C'est inhérent au monde d'être loin de Dieu. C'est la chute, c'est le péché originel. C'est le chapitre 3, pardon, de la Genèse, où Adam et Ève, donc préfigurant en fait toute l'humanité, dit non à Dieu. Je veux faire ce qui me plaît, je veux faire ce que je veux de ma liberté. Eh bien, c'est lourd de conséquences, parce que le monde croit qu'être libre, c'est se refuser à Dieu. Voit la relation filiale avec le Père comme un obstacle à l'épanouissement de la personnalité, alors que c'est tout l'inverse. Au contraire, il y a aliénation quand nous quittons Dieu. Il n'y a qu'à voir comment le monde vit, l'égoïsme, les richesses mal partagées, chacun pour soi. Je caricature pas, malheureusement, ça c'est le monde sans Dieu. Eh bien, le monde pourtant a soif d'amour, mais comme il veut atteindre cet amour sans se confier au Père, tel un enfant se confie à son père et à ses parents pour apprendre à aimer, eh bien le monde ne veut pas apprendre de Dieu ce qu'est aimer. Donc le monde termine finalement dans une attitude qui est à l'opposé de ce qu'est le véritable amour. Et même quand parfois il y a des beaux gestes, ils sont souvent avec le temps salis et dégradés parce qu'ils sont loin de la source d'amour qu'est Dieu. Hein, je ne veux pas revenir, je l'ai dit déjà dans d'autres enregistrements, mais on justifie l'avortement et bien d'autres choses au nom de l'amour. Alors que tout de même, quand on a un regard, disons, pur, comme le dit le texte, il y a quand même un sacré problème. Oui, combien de fois on va dire « je suis trop vieux, je suis trop jeune, alors je vais avorter », etc. Et il y a bien d'autres choses, l'euthanasie aussi parfois, qu'on essaye de justifier par l'amour. Alors, je ne dis pas tous les cas sont à... Évidemment, il y a des cas très difficiles, mais quand même, hein, quand on regarde avec une vue assez générale, c'est le but de l'Église, il y a quand même un sacré problème de vouloir la mort d'une personne au nom de l'amour. Et ben, c'est ça, finalement, le monde qui s'éloigne de Dieu. Alors, le monde ne connaît pas Dieu. Et comme Dieu nous appelle à vivre de cet amour qu'il vit pleinement dans la Trinité, et qui est l'amour du ciel, forcément nos valeurs seront différentes. Au lieu d'être égoïstes, nous essayerons d'aimer les autres, d'avoir soif de justice, et nous ne serons pas compris, parce que justement, nous ne voulons pas agir comme les autres, chacun pour soi, etc. Et nous serons souvent raillés, moqués, traités de naïfs, ou parfois on nous reprochera même de vouloir aimer certaines personnes alors que nous devrions les haïr. Bon, et j'en passe. Finalement, le fait de rentrer dans le monde de Dieu, dans ce monde fait d'amour, d'un amour vraiment imprégné de miséricorde, est quelque chose d'incompris par notre monde qui est malheureusement assujetti à toutes les valeurs du malin, c'est-à-dire à toutes ces valeurs qui sont à l'opposé de ce qu'est l'amour. Et il ne faut pas être naïf, justement. Il ne faut pas être naïf. Être chrétien, c'est être plus heureux dans son fort intérieur, intérieurement, mais ça ne veut pas dire ne pas avoir d'obstacles dans la vie. Et il ne faut pas être non plus naïf sur ce monde. Ce monde est loin de Dieu. Et souvent nos frères qui sont loin de Dieu, il leur manque quelque chose, ne soyons pas naïfs. Il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Ayons ce regard lucide pour justement prier et les aimer dans le but de les amener à Dieu par l'amour et la prière. Si nous n'avons pas ce regard lucide sur nos frères et sur le monde, qui les amènera à Dieu, puisque Dieu, dans sa bonté, veut passer par l'homme pour que l'homme soit sauvé par l'homme, à l'image du Fils qui s'est fait pleinement homme pour que l'homme soit sauvé librement dans son humanité. Eh bien, c'est le rôle aussi que nous avons d'être le relais du Fils. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Alors, continuons. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, il faut être conscient que être chrétien, c'est beaucoup de bonheur, mais il y a beaucoup d'obstacles en nous-mêmes et en ce monde qui nous éloignent de Dieu. C'est normal. C'est normal aussi que nous ne soyons pas aussi parfaits que nous le voudrions. Ne nous décourageons pas et redoublons de prières et de persévérance, parce que ce monde est loin de Dieu Et ce monde n'est pas l'environnement favorable pour un plein épanouissement de notre relation à Dieu. Alors nous, bien que nous vivions déjà de notre relation personnelle au Père par le Fils, il y a encore beaucoup de choses qui font obstacle à cette relation. Eh bien, il faut l'accepter. Il faut aussi savoir qu'il y aura des obstacles en nous-mêmes et en nos frères. N'en soyons pas surpris. Mais déjà, et ça doit nous réconforter, si nous vivons vraiment d'un amour filial avec le Père en Jésus-Christ, eh bien, nous voyons déjà tout ce que cette relation peut nous apporter. Alors quel bonheur quand nous pourrons voir le Fils tel qu'il est, quand vraiment nous serons pleinement à l'image du Fils et nous aurons une relation filiale avec le Père sans tâche. Ça devrait nous rendre pleinement heureux. Si dès maintenant nous voyons déjà les fruits de cette relation que nous entretenons dans ce monde bien imparfait. Et remarquons ici que toujours la relation Père passe par le Fils. Parce que le Fils, c'est celui qui est pleinement aimé du Père. C'est en Dieu l'amour qui reçoit de l'autre et qui donne en retour. Et c'est par cette relation que nous sommes amenés à vivre dans la Trinité. C'est donc à l'image du Fils que nous aurons une relation vraie au Père, c'est-à-dire savoir se laisser aimer par lui et en retour aimer notre Père. C'est donc en voyant le Fils tel qu'il est, en vraiment vivant une communion pleine et entière avec le Fils, que nous pourrons vivre notre relation juste à Dieu en ce monde et dans l'autre. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance, continue le texte, se rend pur comme lui-même est pur. C'est un encouragement. Malgré le fait que dans ce monde nous ne pouvons pas vivre une relation pleine et entière avec le Père, parfaite avec le Père et le Fils, eh bien dès maintenant, nous goûtons les fruits de cette relation, bien qu'imparfaitement. Nous devons nous accrocher malgré nos défauts, malgré nos obstacles en nous et en ce monde. Soyons convaincus que la promesse de bonheur que nous promet Dieu, justement, que nous donne Dieu dans sa parole, elle est déjà maintenant, bien qu'imparfaite. Déjà maintenant, nous pouvons goûter la sollicitude du Père, l'amour du Fils, et les fruits que cela peut engendrer dans notre vie de paix, d'amour et de douceur. Et soyons-en vraiment réconfortés et bien loin de nous décourager, ayons en tête vraiment que dès maintenant nous sommes appelés à goûter ces fruits pour davantage prier et aimer au lieu de baisser les bras. Alors maintenant je vous propose de passer à l'interprétation, disons, tropologique, c'est-à-dire ici qui va être centrée sur ce qui se passe à l'intérieur de nos frères et de nous-mêmes. Parce que ce texte, c'est aussi, c'est pas simplement la pleine révélation dans l'au-delà, mais c'est aussi la pleine révélation dans nos vies. Voyons comment ce texte peut résonner en nous grâce à cette interprétation plus psychologique que l'interprétation tropologique. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Pensons à tous les gens qui sont loin de Dieu. Le Père aime tout le monde. Et nous le sommes. Tellement de gens sont ignorants de l'amour dont Dieu les aime. Et pourtant ils sont enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu et ils l'ignorent. Mais Dieu veut les aimer. Dieu veut les combler au même titre que nous-mêmes qui l'avons déjà rencontré. Et alors, bien loin d'appeler sur ces gens un jugement, Dieu nous appelle à les aimer et à prier pour eux, au lieu de les juger. C'est une chose très importante dont il faut être conscient. Parce que si nous avons tendance à juger nos frères qui sont loin de Dieu, à nous éloigner d'eux, à les regarder de haut, eh bien nos frères, nous les laissons dans leur situation, nous les laissons dans une vie où ils ne peuvent pas être pleinement enfants de Dieu, parce qu'ils ne s'ouvrent pas pleinement à l'amour du Père. Notre responsabilité, c'est vraiment d'être conscient de cet amour que le Père veut donner pleinement à ses enfants, qui sont déjà ses enfants, même s'ils ne peuvent pas goûter pleinement cet amour, parce qu'ils sont ignorants de l'amour du Père, ou parfois ils y sont hostiles par méconnaissance, ou par préjugé. Alors soyons vraiment conscients de cet amour du Père universel. Donc voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Alors ici, le « nous connaître », c'est un petit peu la grâce de Dieu supportée, soutenue par notre prière. Nous savons que nos frères, nous savons vraiment que nous prions pour eux et que la grâce de Dieu travaille en eux. Et pourtant, la première étape, finalement, c'est qu'ils n'en sont pas conscients. La grâce de Dieu travaille toujours d'abord dans l'inconscient des gens parce que Dieu respecte leur liberté. Si Dieu s'imposait tout de suite à l'homme sans lui donner un temps de préparation, il n'y aurait pas de liberté. Mais Dieu respecte la liberté des hommes. C'est pour ça qu'il travaille doucement, lentement, dans leur inconscient, les préparant petit à petit à sa révélation consciente, pleine et entière. Et justement, parce que Dieu veut pleinement l'homme libre, il veut que ce travail qui se réalise dans l'inconscient de nos frères soit supporté, soutenu par d'autres hommes qui librement vont offrir leur humanité et leur amour pour sauver leurs frères. Et c'est notre rôle. Soyons pleinement conscients, nous, du travail que Dieu nous demande, c'est-à-dire de prier pour la conversion de nos frères et les aimer pour accompagner, pour entourer notre prière. Voilà. Alors voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Ne soyons pas décontenancés. Souvent, nous ne serons pas amenés à témoigner en parole. Et si nous le faisons très souvent, l'accueil de notre témoignage n'a pas les fruits voulus. Mais c'est normal. C'est normal. Il faut toujours un temps de latence. C'est comme ça que la grâce de Dieu travaille, parce que Dieu aime. Et quand on aime, on respecte les réticences et les libertés des frères. Donc, bien loin d'être découragé, soyons-en réconfortés et lucides. Et la suite, d'ailleurs, vient nous encourager. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons. Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Eh bien, c'est la conversion des gens. Parce que, dès maintenant, la grâce de Dieu agit dans le cœur des gens, mais ce n'est pas encore clair. Ils ne sont pas encore au clair avec Dieu. Parfois, ils semblent encore très loin de Dieu. Mais un jour viendra où ils s'ouvriront consciemment, ils prendront conscience de la présence de Jésus dans leur cœur, et alors ils verront le Fils tel qu'il est. Ça, c'est la conversion, c'est l'aboutissement de nos prières et de notre amour pour nos frères, de notre témoignage en prière et en acte. Et parfois, ce témoignage en prière et en acte peut trouver son aboutissement par un témoignage en parole quand les temps sont mûrs. Et alors, ils voient le Fils tel qu'il est. Peu importe quelle forme prendra ce moment de prise de conscience chez nos frères, mais il arrivera, et ils le verront tel qu'il est. Je veux aussi vous parler de ce qui peut se passer dans notre propre cœur, parce que très souvent, nous avons l'impression que nos efforts et que notre vie est bien loin de ce que Dieu voudrait, que nous avançons un tâton. Nous ne voyons pas encore clairement. Mais un jour, tel péché que nous n'arrivions pas à vaincre, etc., par la persévérance de notre prière et par nos efforts, eh bien, c'est un peu comme si cette partie de notre vie voit le Fils tel qu'il est et se donne pleinement à lui. Donc, soyons toujours persévérants malgré les échecs, hein, forts de la foi et de la conviction que Dieu agit lentement mais sûrement. Eh bien, continuons à prier pour nos frères et à les aimer, et à prier pour nous-mêmes et à ne pas relâcher nos efforts quand nous voyons que dans tel ou tel domaine de notre vie, il y a un effort de conversion à faire. Et enfin, et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Eh bien justement, si nous avons l'espérance que, malgré les apparences trompeuses, que rien n'y fait, eh bien si nous avons la conviction que Dieu travaille dans le cœur de nos frères et que dans leur fort intérieur, dans leur inconscient, la grâce de Dieu progresse, eh bien, nous sommes déjà purs, et nos frères sont déjà purs, comme le Christ est lui-même pur, parce que, justement, par notre regard d'espérance, par notre prière persévérante, eh bien, la grâce de Dieu travaille, lentement mais sûrement, et c'est comme si, potentiellement, la conversion était déjà là. Alors, c'est comme si, potentiellement, ils étaient déjà purs, purs de la conversion, qu'ils connaîtront tôt ou tard. C'est cette conviction qu'il nous faut avoir. Et nous devons être des hommes de foi, et cette foi doit engendrer notre amour qui ne doit jamais se décourager malgré les apparences. Et parfois même nos frères, quand ils approchent de la conversion, quand petit à petit dans leur cœur la grâce petit à petit se lève pour arriver à franchir le seuil du conscient, et bien parfois il y a des réactions hostiles. Et bien ne nous en décourageons pas, soyons lucides et sachons que parfois ce sont les préludes justement à ce que nos frères se rendent enfin à Dieu et qu'ils s'ouvrent pleinement au Fils et qu'ils le voient tel qu'il est. Vous voyez, le chrétien est un homme qui ne se décourage pas parce que sa foi est tellement forte qu'il prie et qu'il sait déjà qu'en germe il y a dans le cœur des frères qui sont loin de Dieu, il y a dans le cœur de ce monde, il y a dans notre propre cœur, qu'en germe la grâce travaille et qu'il y a ce fruit de conversion qui justement n'a besoin que de temps pour s'épanouir, mais qui finira par s'épanouir. Eh bien, c'est ça cette espérance qui est pure comme le Christ lui-même est pur. Voilà. Et la dernière interprétation est assez intéressante. C'est une interprétation dite allégorique, christologique, qui est centrée sur le Christ. Bon, ce texte est évidemment centré sur le Christ, mais vous allez voir que cette interprétation donne des choses, nous éclaire d'une façon très intéressante sur justement notre monde qui est traversé par tellement de courants religieux où tout est relativisé. Voyons. Alors, mais bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Alors j'ai dit que tous nos frères, loin de Dieu, sont déjà fils de Dieu. Eh bien, c'est pareil pour tous les gens qui ont notre religion et qui souvent par ignorance ou par préjugé ne se font pas chrétiens ou rejettent la foi chrétienne. Eh bien, tous ces gens sont déjà enfants de Dieu. Eh bien, tous ces gens sont déjà au bénéfice de la grâce de Dieu. Dieu les veut pleinement, ses enfants. Dieu les aime pleinement. Alors il ne faut pas juger ceux qui ont notre religion et les envoyer rondement en enfer, si j'ose dire, mais il faut avoir un regard d'amour et de patience vraiment sur ces gens. Alors, voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. C'est une parole extraordinaire, parce que bien que des gens aient soif de Dieu et qu'ils aient une vision de Dieu, elle est tellement imparfaite, que ici la parole de Dieu nous dit que le monde ne connaît pas Dieu puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Sans le Fils, il n'y a pas de découverte réelle de Dieu. Le Christ est celui qui mène à Dieu, et sans le Christ, la vision de Dieu est bien imparfaite et parfois complètement faussée. Et il ne faut dire que toutes les religions mènent à Dieu est quelque chose de bien inexact et de bien dangereux. Et c'est mettre vraiment le sacrifice du Christ de côté, et c'est croire qu'on peut venir à Dieu sans le sacrifice du Christ, sans Jésus-Christ. Mais alors, à ce moment-là, pourquoi le Christ est venu ? Donc le texte nous dit, voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître. Donc il ne peut pas connaître vraiment ce qu'est la relation à Dieu, ce que vit le chrétien, nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Eh bien justement, c'est la venue du Fils qui fait que la foi en Dieu devient pleine et entière, que l'image de Dieu est pleine et entière. Certes, je disais que les gens souvent qui n'ont pas le Christ, même s'ils ont notre religion, sont bien loin de Dieu, parfois ne connaissent pas Dieu. Alors, mais ici le texte nous dit qu'ils peuvent avoir une vision de Dieu, mais elle n'est pas claire. Seule la venue du Fils peut vraiment nous montrer Dieu tel qu'il est. Parce que si nous voyons le Fils tel qu'il est, nous voyons Dieu tel qu'il est. Alors, pourquoi ? D'abord, il me semble très important de tordre le cou à cette idée que toutes les religions mènent à Dieu. Je parais bien intolérant, mais à première vue, on pourrait croire que finalement, de dire que toutes les religions mènent à Dieu, eh bien, c'est finalement que Dieu nous aime, puisqu'il fait que tout le monde peut arriver à lui. Mais réfléchissons bien. Vous connaissez sûrement des gens dans votre entourage chez qui on ne peut pas savoir ce qu'ils pensent, parce qu'ils disent toujours oui, ou ils épousent toujours le sens du vent, comme on dirait. Hein. Il n'y a pas moyen de les saisir, ils sont comme des anguilles. Eh bien, si Dieu admet que des religions complètement contradictoires, parce que je peux vous le montrer tout à l'heure, mais des choses complètement contradictoires puissent mener à lui, ça veut dire que finalement on ne peut pas avoir une vision de Dieu claire. Donc finalement Dieu est comme une anguille, il est insaisissable. Quel est ce Dieu qui dit nous aimer, mais qui fait qu'on ne peut pas l'aimer pleinement parce qu'on ne peut pas le connaître pleinement? Mais réfléchissons, c'est complètement incohérent de penser que finalement Dieu peut dire en son Fils finalement il nous a aimés jusqu'à mourir, et puis dans une autre religion qu'est l'islam, ben non, Jésus n'est pas mort, il était enlevé avant, et c'est un espèce de lampiste qui est mort sur la croix. Vous voyez, une religion dit que Jésus est le seul chemin vers le Père, et l'islam dit que c'est un prophète parmi tant d'autres. Le bouddhisme nous dit même que finalement on peut arriver à se sauver, à sauver sa peau, parce que c'est ça dans le bouddhisme fondamentalement, sans dépendre de Dieu. Mais c'est incroyable. Comment peut-on penser que Dieu nous dit, eh bien, je veux une relation, comme nous dit le texte, personnelle avec vous, par communion, et une autre religion qui nous dit que finalement, il y a des réincarnations successives, où Dieu est absent de ce cheminement, et finalement, le résultat final, c'est de se fondre dans une divinité informe et impersonnelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voudrait dire vraiment? Que ce Dieu qu'on ne peut pas connaître, parce que tout simplement, il refuse de se laisser connaître. Donc vous le voyez bien, c'est une offense à Dieu de penser que toutes les religions se valent et que finalement, peu importe la religion qu'on prend. Parce que Dieu veut se faire connaître clairement pour se laisser aimer clairement et pour que nous puissions savoir clairement comment il nous aime. Alors, pourquoi la religion chrétienne? Ben, c'est la seule religion tout de même qui nous montre que Dieu nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. C'est la religion de ce Dieu qui se retrousse les manches pour nous aimer. Parce que vous savez ce qui me choque dans l'islam, par exemple. C'est ce Dieu très relatif, qu'on doit craindre tellement il est écrasant et lointain. Il est à la fois écrasant de sa supériorité et lointain. Finalement, dans l'islam, c'est l'islam qui reprend cette idée dans le Coran, que Dieu finalement a voulu la diversité des religions, parce que, soi-disant, il aime la diversité. Mais c'est vrai, la Pentecôte, la vue de l'Apocalypse, où il y a des gens de toute race, de toute religion, Dieu nous aime tels que nous sommes, Dieu nous aime dans la diversité, mais ça ne veut pas dire le relativisme, attendez, parce que si Dieu vraiment, comme je viens de le dire, se laisse trouver par différents chemins complètement contradictoires, eh bien Dieu est insaisissable et inconnaissable. Ben, c'est finalement ce que dit l'islam de Dieu. Vous voyez? Alors il y a quand même un sacré problème. Et c'est pas étonnant qu'ils aient une vision de Dieu où ce Dieu est lointain. Et finalement, dans l'islam, il est dit tout simplement que Dieu nous aime, mais qu'il n'avait pas eu besoin de mourir sur une croix parce que ça lui suffisait, je souligne le mot, ça lui suffisait de nous aimer, de nous créer. Mais attendez, si l'homme librement refuse Dieu, et si Dieu veut le sauver dans sa liberté, eh ben, il doit se mouiller la chemise, Dieu. Et il doit descendre, et il doit venir parmi nous, et vivre parmi nous pour nous tirer de notre fange, de notre boue. Et voilà pourquoi la foi chrétienne est merveilleuse. Et c'est encore pire dans l'hindouisme et le bouddhisme, où il n'y a même pas vraiment de Dieu, où le Dieu est complètement impersonnel, il nous laisse nous débrouiller tout seul. Donc, tordons le cou à cette idée que toutes les religions se valent, et que finalement, c'est même... comment dire, une louange à Dieu de dire que tous les chemins mènent à Dieu. Alors, du coup, on comprend mieux pourquoi le Christ est révolutionnaire et quelle est notre responsabilité. Alors, bien sûr, il n'est pas question d'imposer notre religion. Le texte, d'ailleurs, après nous le dit. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Bon, bien sûr, c'est déjà nous. Hein, si nous avons la conviction que le Christ est la seule réponse et que lui, il est pleinement de Dieu, et que lui seul peut ouvrir les hommes à la grâce de Dieu, eh bien, plutôt que d'être intolérant, prions et aimons, fort de la... parce que justement nous savons que c'est que Jésus a la puissance de Dieu, qui est faite d'amour et de respect de la liberté, et que cette puissance, par notre prière, agit dans le cœur de nos frères qui sont loin du Christ, mais qui finiront par le trouver, parce que justement nous faisons confiance dans la grâce de Dieu. Mais c'est aussi à comprendre autrement. Tout homme qui fonde sur lui une telle espérance, tout homme qui a vraiment soif de Dieu, comprend que aimer Dieu, c'est aimer son prochain, et il y en a dans toutes les religions, eh bien, comme le dit Jésus, quiconque aime vient à la vérité. Eh bien, soyons convaincus que ces gens-là sont, malgré les apparences, sont des gens qui présente un terreau favorable à la venue du Christ. Alors plutôt que de voir dans les religions un obstacle et de se crisper et d'essayer de tout casser, voyons dans ces religions une aide, dans la mesure où les gens la pratiquent avec sincérité leur religion pour se rapprocher de Dieu, du ciel, etc. Alors ça veut dire que notre évangélisation, bien loin d'être cassante et irrespectueuse, doit se faire accompagnatrice et doit se faire discrète. Très souvent il ne s'agit pas de témoigner en parole, parce que là nous blesserions les gens, mais il faut vraiment ne pas hésiter à prier pour nos frères, à leur montrer en acte ce qu'est le Christ dans nos vies et ce qu'il change. Et fort de cet amour pour nos frères, nourri par notre relation avec le Christ et notre prière que nous faisons pour qu'ils rencontrent le Christ, qui justement ouvre leur cœur à l'action du Christ lui-même, eh bien, fort de cet amour et de cette prière, eh bien, soyons convaincus que ce terreau favorable qu'est, la, qu'est leur religion et la pratique de cette religion qui est sincère, les rend purs, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, ils vont être attirés par le Christ. Et à un moment ou à un autre, peut-être qu'ils nous demanderont à ce moment-là des éclaircissements. Et seulement alors nous pourrons leur témoigner vraiment de notre bonheur et notre foi, parce que nous serons crédibles. Voilà, c'est quelque chose dont il faut vraiment être convaincu. Parce qu'autrement, ça ne va pas. Et c'est pour ça que je suis très réticent quand on appelle, quand on parle du dialogue interreligieux. Alors c'est très bien si c'est justement un cheminement avec nos frères pour mieux les connaître et mieux nous faire connaître par nos actes et parfois par un témoignage respectueux en tant que chrétien. Mais si c'est pour vraiment commencer à croire que toutes les religions se valent et faire croire à nos frères que la foi chrétienne est une foi parmi tant d'autres, alors c'est très très dangereux. Vous voyez, il faut vraiment le comprendre, c'est ce que le pape Benoît XVI essaye de faire comprendre, c'est ce que Vatican II a dit. Finalement, Vatican II reprend cette dernière phrase du texte, quelque part, en l'adaptant. « Quiconque fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. La religion, qui n'est pas chrétienne, est un terreau favorable, justement, à ce que à la venue du Christ. Il faut le voir comme ça, donc bien loin de nous crisper, aimer, prier, être respectueux, laissant la grâce faire son chemin. Mais il faut quand même avoir dans l'esprit cette force, cette conviction que le Christ est la seule réponse, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Et donc ça doit vraiment motiver notre prière pour que la grâce travaille dans le cœur de nos frères, pour que vraiment notre témoignage en acte soit digne de ce nom. Vous voyez comment peut se manifester notre témoignage, notre envie de les amener à Jésus-Christ. Et par ce biais-là, nous sommes bien évidemment respectueux de leur foi. Et voilà. Je voudrais conclure justement par un passage d'une lecture que j'ai faite qui est éclairante à ce sujet. La personne dont je vais lire un passage est finalement, c'est Denis Bijou Duval, professeur de théologie de l'évangélisation à l'Institut Pontifical Redemptoromis de l'Université du Latran. Alors, voilà ce qu'il dit. L'évangélisation est due à Dieu, mais elle concerne l'œuvre de Dieu pour l'homme qu'il veut sauver. Aussi faut-il dire de même que l'évangélisation est due à l'homme. Les papes ne craignent pas ici d'affirmer que les multitudes ont le droit de connaître la richesse du mystère du Christ. C'est Paul VI qui l'a dit dans une exhortation. Evangelii Nuntiandi. C'est un écrit de Paul VI bien connu sur la nouvelle évangélisation. Donc je continue. Ou encore, comme le Christ, durant le temps de sa prédication, comme les 12 le matin de la Pentecôte, l'Église aussi voit devant elle une immense foule humaine qui a besoin de l'Évangile. Et il y a droit, puisque Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc c'est pareil, c'est tiré de ce même écrit de Paul VI. Certes, ceux qui ignorent le Christ ignorent aussi leur droit d'entendre annoncer son amour et ses projets à leur endroit. Ce droit est pourtant réel. Il est pour ainsi dire coextensif à leur humanité que Dieu veut accomplir dans le Christ. Ce droit procède aussi des semences du Verbe qu'ils ont pu recevoir par leur culture et leur religion, semences qui appellent leur accomplissement dans la connaissance du Christ. Loin de rendre l'évangélisation facultative, sous prétexte qu'il serait déjà porteur de salut, les semina verbi, c'est-à-dire les semences du Verbe, la rendent d'autant plus nécessaire qu'ils n'ont leur plein sens qu'en vue d'elle. Certains sont tentés de s'abstenir d'annoncer le Christ parce qu'ils croient par là se montrer plus respectueux des valeurs humaines et spirituelles déjà présentes dans les cultures et les religions du monde. En réalité, c'est se montrer respectueux d'une valeur que de lui permettre de s'accomplir définitivement. Est-elle est bien ce qui advient lorsqu'elle se trouve évangélisée. C'est au contraire mépriser une valeur et mépriser les personnes qui en sont dépositaires que de les priver de cet accomplissement en taisant l'évangile. Et l'auteur de continue en lui disant bien sûr que notre témoignage doit être respectueux comme je l'ai signalé. Donc, c'est éclairant, vous voyez, de vraiment prendre pleinement conscience de ça. Et moi je vous dis qui dans mon passé a fréquenté l'hindouisme, le bouddhisme, qui a lu le Coran, je peux vous dire une chose, c'est que je comprends pleinement ce que le Christ amène à la vision de Dieu. C'est ce que disait Benoît XVI dans son livre Jésus de Nazareth. le Christ nous amène Dieu. Parce que vraiment, ce texte nous le montre, le Christ est le seul qui a vraiment osé appeler Dieu Père. Mais non pas Père vague, Père du peuple, Père de la terre, mais vraiment ton Père à toi. Et si par le Christ qui est pleinement Fils, c'est-à-dire celui qui est engendré du Père, c'est-à-dire celui pour lequel le Père a aimé, et l'amour du Père ne peut que s'ouvrir sur l'autre. Et l'autre, c'est lui-même, c'est le Fils, parce que on aime pleinement quelqu'un que si on l'aime à égalité. Eh bien, cet autre, c'est le Fils. Et cette relation est merveilleuse. Cet amour qui peut être plein justement en Dieu, parce que ce sont deux personnes de même nature qui s'aiment, qui donnent et qui reçoivent, cet amour communion. Eh bien, nous sommes invités par Jésus-Christ à rentrer dans cette communion. Vous voyez la dimension que le Christ nous apporte, cette dimension filiale avec le Père qu'aucune autre religion ne peut nous apporter. Et justement, la relation personnelle avec Jésus et par lui la relation personnelle avec Dieu notre Père est vraiment la marque de fabrique de la foi chrétienne. Je peux vous dire, allez dans une mosquée, allez chez les bouddhistes qui tournent leur crécelle, etc., et récitent des monitions, les hindouistes, vous verrez que ce n'est pas Dieu qu'ils adorent. C'est eux-mêmes, en multipliant les vaines paroles. Là, je pense plutôt au bouddhisme et à l'hindouisme. Et voyez l'islam. Voyez leur prière qui est immensément rituelle. Voyez, si j'ose dire, le culte à la mosquée, qui n'est qu'un discours et que des prières mécaniques. On est bien loin vraiment de ce que peut être la foi chrétienne et cette relation personnelle à Dieu. Je peux vous le dire, c'est ce que Jésus apporte, cette relation personnelle avec lui, avec le Père, cette relation filiale avec le Père. Eh bien, je crois que les gens ont droit à cette vérité, dans le respect évidemment de leur culture et de leur religion, dans les limites dans lesquelles j'en ai parlé tout à l'heure. Donc vraiment, c'est quelque chose de très important de s'en rendre compte. Et effectivement, concluons par ça, il est bien évident que la relation à Dieu est forcément transformée quand vraiment on met la croix au centre, quand Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, et quand lui, il nous a aimés jusqu'à en mourir. Mais un Dieu qui est prêt à se donner pleinement pour nous aimer, mais pas d'un amour étouffant, d'un amour qui nous respecte tellement dans notre liberté qu'il a accepté d'en mourir pour ne pas s'imposer, eh bien croyez-moi que ça change vraiment la relation qu'on peut avoir avec Dieu, de savoir ça, de mettre la croix au centre de sa foi. Voilà. Alors je vous propose maintenant de prier si vous voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite je me joindrai à vous en priant à haute voix, et enfin je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Ô Père, merci pour ton Fils qui nous a pleinement révélé que tu étais Père, que tu aimais à la manière d'un Père, celui qui engendre et qui donne. Oui, vraiment merci Père, de nous aimer de la sorte. Et pour goûter pleinement à ton amour, révèle-nous toujours davantage ton Fils, à nous-mêmes et à nos frères. Oui, Seigneur, nous prions vraiment pour nos frères, qu'ils soient d'une autre religion ou tout simplement loin de toi. Oui, Seigneur, que ta grâce travaille en eux jusqu'au jour où ils verront le Christ tel qu'il est. Et Seigneur, fais de nous vraiment des témoins, priants et aimants. Et pour cela, vraiment, apprends-nous toujours davantage à t'aimer comme un Père, en nous confiant à toi par ton Fils. Et vraiment, Père, je voudrais te demander vraiment que en ton Fils, tu nous fasses vivre toujours davantage cette relation vivante avec toi, pour que le jour de notre mort, nous n'ayons pas d'appréhension, mais pour que nous sachions que cette relation que nous avons déjà goûtée va trouver son plein épanouissement dans le ciel. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes.